Chapitre 9. Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux depuis 1990. Cours 1. Après la guerre froide, quel nouvel ordre mondial? 1990-2003. Comment s'organise le monde de l'après-guerre froide? A. Après 1990, vers un ordre mondial pacifié? 1. Un nouvel ordre garanti par l'ONU et les États-Unis. La fin de la guerre froide marque la fin d'une période d'affrontement idéologique entre l'URSS et les États-Unis et d'un état de guerre permanente dans lequel l'Organisation des Nations Unies, ONU, a été réduite à l'impuissance. Elle semble ouvrir la voie à un monde où la paix serait garantie par une organisation multilatérale. L'ONU, appuyée par la superpuissance des États-Unis. La première guerre du Golfe en 1991 apparaît alors comme un modèle pour la sécurité collective. Une coalition internationale menée par les États-Unis de George Bush se forme sous l'égide de l'ONU pour rétablir la souveraineté du Koweït annexé en 1990 par l'Irak. C'est aussi au début des années 1990 que le processus de paix entre Israël et les territoires palestiniens, accord d'Oslo de 1993, connaît, grâce à l'arbitrage américain, une avancée décisive qui a pu laisser croire à la fin de ce conflit né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 2. Les progrès de la démocratie. Alors que les régimes démocratiques étaient minoritaires dans le monde jusqu'aux années 1980, la fin de la guerre froide est favorable à la chute des dictatures et à l'établissement de régimes libéraux. La démocratie gagne du terrain sur tous les continents. En Europe centrale et orientale, des élections libres ont lieu après la chute des régimes communistes, Pologne, Tchécoslovaquie. En Afrique du Sud, l'apartheid prend fin dans un climat de guerre civile marqué par des violences raciales. Le pays s'engage cependant dans un processus démocratique. Les premières élections multiraciales donnent le pouvoir à l'ANC, African National Congress, parti politique luttant contre l'apartheid, et à son leader Nelson Mandela, élu président en 1994. B. De rapides désillusions. 1. Recul de la démocratie et terrorisme. L'espoir d'une démocratie triomphante est rapidement déçu. Ainsi, la Chine réprime violemment les manifestations démocratiques qui se tiennent à Pékin sur la place Tiananmen en 1989. Au Moyen-Orient, le processus de paix israélo-palestinien n'aboutit pas. L'islamisme progresse au Liban, en Égypte, en Tunisie et en Algérie, mais n'accède pas au pouvoir. L'Iran, république islamique depuis 1979, reste un cas isolé. Il se radicalise et s'internationalise, une partie de ses partisans se regroupe dans des organisations internationales terroristes comme Al-Qaïda. 2. Réveil des nationalismes et guerres intra-étatiques. Durant la décennie 1990, le monde est confronté à de nombreuses guerres, le plus souvent intra-étatiques, face auxquelles la communauté internationale se trouve impuissante. Ainsi, en ex-Yougoslavie, la chute du communisme et le réveil des nationalismes provoquent l'éclatement du pays et quatre guerres successives, 1991, 1995 et 1999, où les populations civiles sont soumises à des pratiques génocidaires, nettoyage ethnique en Bosnie. En Afrique, les guerres intra-étatiques, accompagnées de pillages et de massacres, concernent de nombreux pays. Au Rwanda, dans un climat de lutte pour le pouvoir et de haine raciale, le gouvernement extrémiste Hutu organise entre avril et juillet 1994 le génocide de la population Tutsi, 1 million de victimes. C. Le désordre mondial et l'Empire américain après 2001. 1. La remise en cause de la puissance américaine. Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne détournés percutent les deux tours du World Trade Center à New York. Cette attaque d'Al-Qaïda, revendiquée par Oussama Ben Laden, fait vaciller la croyance des États-Unis dans l'universalité de leur modèle et révèle la menace d'un terrorisme islamiste mondialisé. L'attaque du 11 septembre provoque une rupture dans la politique étrangère américaine. Les États-Unis, en guerre contre le terrorisme, s'engagent dans des conflits armés contre les États supposés soutenir le terrorisme. En 2001, en Afghanistan, avec l'accord de l'ONU. En 2003, en Irak, sans l'accord de l'ONU et sans celui de certains de leurs alliés, notamment la France. Cet unilatéralisme américain qui ne tient plus compte de la communauté internationale, incarnée par l'ONU, devient alors lui-même facteur de désordre. Le régime de dictature de Saddam Hussein en Irak est renversé par l'intervention américaine, 2003, mais le pays ne connaît ensuite ni la paix ni le retour à la démocratie. 2. Un monde à la recherche d'une gouvernance. Si le maintien d'un ordre mondial pacifié paraît impossible, l'ONU reste néanmoins une instance régulatrice indispensable. Les casques bleus, soldats chargés du maintien de la paix fournis par différentes puissances de l'ONU, interviennent désormais sur tous les continents. L'ONU se charge dans certains cas de l'administration provisoire d'États en faillite, comme en Haïti de 1993 à 1996. Des tentatives de régulation dans des domaines spécifiques, comme le climat, apparaissent. En 1997, au sommet des Nations Unies de Kyoto, 38 États signent des accords qui les engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais les États-Unis, premiers pollueurs, ne les ratifient pas. Une justice internationale se met en place. En 2002, la Cour pénale internationale est créée conformément au statut de Rome, adopté en 1998 par 120 pays et ratifié depuis par plus de la moitié des pays du monde. Cour permanente et indépendante, elle fait suite à la tenue de juridictions temporaires pour le Rwanda et pour la Yougoslavie. Compétente pour juger les génocides, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis 2002, elle n'intervient cependant que lorsque les États sont jugés incapables d'engager eux-mêmes des poursuites pénales.